La découverte, l'imagination, l'évasion, le plaisir, le loisir, l'apprentissage, l'empathie, le partage, voici quelques-uns des nombreux bienfaits procurés par la lecture. Samedi 23 septembre à Manosque, de 14h45 à 15h, à l'occasion de la 25e édition des correspondances, l'association Silence on lit propose un quart d'heure de lecture collectif chez une quarantaine de partenaires, commerçants, particuliers, villes de Manosque et de Bannon. 15 minutes destinées à tous les publics, il suffit simplement à chaque participant de se munir du livre de son choix. L'association veut, au-delà de la promotion du livre ou de la lecture en général, réactiver un rapport intense et fécond à l'acte de lire, en le faisant surgir là où on ne l'attendait pas, dans la collectivité, auprès des établissements scolaires, des entreprises, des communes, des foyers. Pour tout renseignement ou demande, le site www.silenceonlit.com. Olivier Delahaye, président de Silence on lit, a accordé un entretien téléphonique à Fréquence Mistral. Olivier Delahaye, vous êtes président d'une association, Silence on lit. Alors tout d'abord, quelle est cette association ?
Alors Silence on lit, c'est une association que j'ai créée en 2016, avec Danielle Salnave, qui est une autrice qui est à l'Académie française, et Ayşe Başçavuşoğlu, qui est la directrice d'un établissement scolaire en Turquie. Le but de l'association, c'est de remettre la lecture de livres au cœur de nos habitudes. Et quand je dis de nos habitudes, c'est vraiment, on vise tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes, et ce, en France comme à l'étranger.
C'est une œuvre nécessaire, parce qu'on pourrait se dire que, vu la vente des livres en France, il y a quand même beaucoup de lecteurs.
Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture de livres ne cesse de chuter, pratiquement de péricliter. Alors oui, il y a un vivier de lecteurs, mais de manière générale, on peut dire que les gens lisent de moins en moins, et les jeunes encore moins que les autres. Entre 1955 et 1995, le temps de loisir accordé à la lecture, par exemple, s'est effondré. Il est passé de 21% du temps chez les jeunes à 5%. Mais ça, c'était en 95. Et aujourd'hui, avec l'omniprésence des écrans, c'est encore plus grave. Et si vous voulez, tout ça, c'est pas insignifiant, parce que on sait qu'il y a un rapport direct entre le niveau de lecture, que ce soit en temps passé et en qualité de lecture. Il y a un lien entre ce niveau de lecture déjà chez des jeunes enfants, avant de rentrer en sixième, avant d'entrer au collège, et le niveau d'études qu'ils vont faire, et ensuite le niveau d'invention, de brevet, etc. qu'il va y avoir. C'est-à-dire que moins on lit, moins les jeunes lisent, plus on prépare une société qui sera peu compétitive par rapport au reste du monde. Et des pays comme la Chine, comme Singapour par exemple, l'ont compris, où ils limitent le temps d'écran des jeunes. Et ça, c'est pas seulement pour des questions de limite à la démocratie, mais c'est vraiment pour les amener à la lecture de livres. Et nous, on n'est pas très conscients du problème. Les enquêtes PISA devraient quand même nous alerter, et pour l'instant, pas vraiment. Donc, nous, si vous voulez, on s'est lancé dans c'est un petit peu une croisade, mais qui touche en fait tout le monde, hein, et pas seulement en France. Il s'agit vraiment de remettre la lecture de livres, et je parle bien de livres parce que ça n'a pas du tout le même effet de lire sur écran et de lire sur... Et donc il s'agit vraiment de remettre la lecture de livres et ses bénéfices qui sont considérables au cœur de nos habitudes. Et une habitude, ça ne se prend pas comme ça, c'est-à-dire que pour prendre une bonne habitude, eh bien, il faut être aidé. Et donc, c'est ce que fait l'association. Donc, nous, on aide. On est parti, en fait, de quelque chose qui existait dans l'établissement scolaire qui est dirigé par Ayşe Başçavuşoğlu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec qui on a créé l'association, qui dirige une cité scolaire, en fait, à Ankara et à Izmir, en Turquie. À Ankara, il y a à peu près 1700, 1800 élèves, 450 adultes. Et depuis 2001, tous les jours, dans cet établissement, mais absolument tous les jours de l'année, tout le monde, c'est-à-dire tous les jeunes, mais tous les adultes aussi, quelle que soit leur fonction, leur position, etc., tout le monde lit un quart d'heure tous les jours à la même heure. Et ça a des effets qui sont des effets bénéfiques qui sont absolument considérables. Et donc on est parti, si vous voulez, de ce rituel qu'elle avait mis en place, et pour le proposer à des collectivités. Alors, on a commencé avec les établissements scolaires. ça a été beaucoup moins simple qu'on pensait, parce qu'il ne suffit pas juste de parler, de décrire ce qui se passe, etc. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait en fait créer des règles ou donner des règles à ce rituel. Donc, on est parti sur 5 règles. Et puis après, en fait, que ces règles non plus ne suffisaient pas et qu'il fallait vraiment accompagner. Et donc, on a créé une méthodologie qu'on a mis en place au fur et à mesure, qui a considérablement changé au moment du premier confinement et qui passe maintenant entièrement par visio. Et on accompagne les établissements scolaires qui veulent mettre en place ci dans son lit pendant entre 6 mois et 1 an, selon l'établissement, la taille, les problèmes qu'ils peuvent avoir, le milieu social, etc. Donc c'est un vrai boulot. Et on a des salariés qui travaillent à temps complet pour aider à mettre en place ci dans son lit dans les établissements scolaires.
Quelles sont ces règles dont vous parliez ?
Alors les règles, elles sont simples, mais en fait, il faut bien les comprendre pour les appliquer. La première, c'est le silence, évidemment, c'est-à-dire le silence absolu dans un lieu. C'est pour plein de raisons, c'est très important de faire, à un moment de la journée, un silence total et que ce silence il soit partagé par tout le monde. Ça crée un rituel en plus, ça calme les gens, ça a beaucoup d'effets positifs. La deuxième, c'est la participation de tout le monde. Et quand on dit tout le monde, effectivement, donc comme je vous disais, c'est tous les adultes. Et c'est non seulement parce que l'on vise tout le monde, c'est-à-dire les jeunes comme les adultes, mais c'est aussi que pour des jeunes, voir que les adultes lisent, ça a un effet d'exemplarité qui est très important. La troisième règle, c'est la quotidienneté. C'est-à-dire qu'une bonne habitude ne se prend pas en faisant de temps en temps quelque chose. Non, faut le faire souvent, faut le faire fréquemment, notamment pour la lecture. Si on peut lire tous les jours un peu, et un quart d'heure c'est vraiment le minimum, c'est très important. La quatrième règle, c'est la lecture de livres, parce que il faut qu'on puisse tirer tous les bénéfices de cette lecture. Or, la lecture qui est la plus bénéfique pour tout le monde, pour le développement langagier, pour le développement cérébral, pour la culture, etc., c'est la lecture de livres et particulièrement de livres de fiction. C'est très sympa de lire des mangas, des BD, etc. Et il ne s'agit pas de dévaloriser les auteurs ou les œuvres de ces auteurs, mais celle qui est vraiment bénéfique, c'est la lecture de livres et de livres de fiction.
C'est important de se construire ses propres images.
C'est de construire ses propres... Alors, ça a un effet, si vous voulez, sur l'imagination, sur l'empathie, sur la compréhension du monde, tout ce qui peut former aussi la culture. C'est là qu'on a les effets maximum. Et tout ça est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, ce ne sont pas des opinions et des jeux comme ça de personnes enthousiastes de la littérature. Il y a un livre qui va sortir cette semaine d'un chercheur en neurosciences qui s'appelle Michel Desmurgés, qui avait déjà jeté un pavé dans la mare avec un livre qui est sorti il y a 3-4 ans qui s'appelait La fabrique du crétin digital, dans lequel il montrait à quel point un mauvais usage des écrans et du numérique peut être catastrophique, notamment avec les jeunes. Plus on expose les jeunes aux écrans, moins c'est bon pour eux, et surtout à un très très jeune âge. Et il a écrit ce livre qui va sortir, qui est, si vous voulez, le pendant de ce premier livre, qui est un livre sur tous les bénéfices de lecture, un livre qui s'appelle « Faites-les lire ». Donc voilà, alors je reviens aux règles. La cinquième règle, puisque donc en milieu scolaire, c'est une totale liberté de choix dans les livres. Et c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rattacher cette pratique à quelque chose de scolaire. On sait très bien qu'on est en milieu scolaire. Nous, on n'a aucune prétention à l'apprentissage de la lecture. C'est pas du tout ça que l'on fait. Ce que l'on veut, c'est donner à tout le monde, pour la vie, une pratique, une habitude de lire et la conscience des bienfaits que ça nous procure. Cette conscience et cette lecture plaisir, vous ne la faites pas dans un cadre scolaire. Si vous devez lire tel ou tel bouquin que vous aimez pas, etc., que vous devez faire un compte-rendu, vous lisez pas pour vous, pour le plaisir. C'est important, surtout parce que, si vous voulez, ce qu'on vise, évidemment, il y a des gens qui lisent et il y a des jeunes qui lisent. C'est pas particulièrement ces gens-là qu'on vise, ce sont surtout ceux qui sont, pour X raisons, éloignés de la lecture. Donc à partir de ça, si vous voulez, on a depuis 2016, on a travaillé beaucoup avec des établissements scolaires en France, en Suisse, en Belgique, on a aussi quelques établissements au Canada, etc. Et puis on a commencé à développer quelque chose en direction des familles. Et là actuellement, on est en train de développer le concept pour l'adapter aux entreprises, pour qu'on puisse aussi lire dans le monde du travail. Alors au début, si vous voulez, comme pour les établissements scolaires, hein, quand j'ai commencé en 2016 à parler d'un rituel de lecture, etc., on me riait au nez, on me disait « Mais non, mon pauvre garçon, tu vas pas arrêter un établissement scolaire pendant un quart d'heure tous les jours, c'est pas possible, etc. » Puis à partir du moment où certains ont été convaincus de le faire, on s'est aperçu très rapidement des effets positifs et beaucoup de gens ont cherché à le faire. Et c'est pareil pour le monde de l'entreprise. Beaucoup de gens vous diront « c'est pas possible ». Et si, c'est possible, parce qu'on sait que ça a des effets positifs sur le bien-être en entreprise, qui commence à être un vrai sujet dont beaucoup de gens s'occupent dans les entreprises. Et donc c'est possible. Évidemment, ça demande à être adapté et c'est ce à quoi nous travaillons actuellement.
Se tiennent à partir de mercredi les correspondances à Manosque. Vous allez être présent vous-même avec votre association samedi 23, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors, les correspondances, très gentiment, depuis 2017, nous accueillent tous les samedis pour que je puisse présenter l'association. Donc, tous les samedis, ils font ça en début d'après-midi avant que les discussions et les interviews reprennent. Donc, chaque année, je présente brièvement l'association et puis derrière, on fait 10 minutes de lecture silencieuse. Donc, c'est une exposition très, très sympathique que nous offrent les correspondances. Et pour la 25e édition, en fait, on a discuté et on a décidé d'étendre ça à toute la vieille ville de Manosque, d'étendre ce rituel à toute la vieille ville de Manosque. C'est-à-dire que le 23, à 14h30, je serai sur la place de l'Hôtel de Ville. Je présenterai l'association et puis ses résultats, ce que nous avons fait depuis un an, etc., nos projets. Et puis à 14h45 jusqu'à 15h, sur la place de l'Hôtel de Ville, et chez pas mal de commerçants et de gens qui participent à l'opération, on pourra lire pendant un quart d'heure en silence. Il y a une quarantaine de commerçants qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont une affiche sur leur vitrine qui indique que les gens pourront venir lire samedi 23 à partir de 14h45, donc qui demandent aux gens d'apporter un livre. Et puis, on aura une ville qui lit. Et ça sera quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ce type d'opération, ça n'est pas ça qui va faire changer les habitudes. Surtout, là, on est à Manosque avec les correspondances. On est, je dirais, avec un public qui est conquis. Tous les gens qui viennent là sont tous des lecteurs. Et donc, on est entre gens qui connaissent les bienfaits de la lecture. Mais c'est une manière d'attirer quand même la lumière sur ce que nous faisons et sur les bénéfices et sur le fait qu'il est très très important d'amener les jeunes à la lecture dès le plus jeune âge et de diffuser cette pratique autant qu'on peut et partout.
Alors avec les interventions nombreuses que vous avez déjà effectuées depuis plusieurs années, est-ce que à la suite de ces lectures, les gens discutent de ce qu'ils ont lu? Est-ce que ça amène un autre niveau que simplement la lecture, c'est-à-dire que les gens en parlent entre eux ensuite?
Évidemment, si vous voulez, c'est une des choses qui est très intéressante avec la lecture, c'est en même temps une activité solitaire, parce que quand on lit, on se plonge seul dans son livre. Et en fait, quand on lit quelque chose qui nous fait plaisir, on a envie de partager. Évidemment, il y a plein de partage de lecture, parce qu'on fait tous quand on va voir un film, quand on lit un livre qui nous intéresse, on en parle, on partage, on essaie de convaincre, on a des avis divergents, etc. Et ça se fait automatiquement sans qu'on ait rien à dire, rien à faire.
Si jamais l'on souhaitait vous contacter ou prendre des informations complémentaires concernant votre association, vous avez un site internet?
Alors, on a un site internet qui est www.silenceonlit.com sur lequel il y a absolument tous les moyens de nous contacter, qu'on soit journaliste, qu'on appartienne à un établissement scolaire ou autre. On reçoit 2-3 demandes par jour d'établissements scolaires qui nous disent on voudrait mettre en place le rituel de lecture, si on s'en lit, comment on fait, ou qui nous disent on a essayé de le faire nous-mêmes, mais ça marche pas, est-ce que vous pouvez nous aider à le faire? Et donc on a après derrière toute une méthodologie pour aider ces personnes. On a depuis 2-3 mois signé un partenariat avec la collection de livres étonnants classiques des éditions Flammarion. Ça, c'est vraiment important parce que c'est d'abord une reconnaissance de notre travail, et c'est aussi la possibilité d'offrir vraiment à prix réduit des livres aux jeunes qui sont aussi bien des classiques que des ouvrages contemporains, modernes. Et dans ces livres qui sont très bien faits, il y a évidemment les textes et beaucoup de ponts qui sont jetés entre la littérature, d'autres arts, la littérature ancienne et la littérature moderne, etc. Et c'est vraiment pour des prix modiques la possibilité de rentrer dans le monde, en fait, de la littérature qui est bien au-delà du livre lui-même. Donc, avec ce partenariat avec Flammarion, d'une part, on a gagné en visibilité, et puis, d'autre part, bah, ceux qui s'engagent avec nous peuvent profiter d'une offre et peuvent rentrer comme ça dans cette collection.
Olivier Delahaye, vous parliez tout à l'heure de salariés. Alors, combien de salariés y a-t-il dans cette association ? Est-ce qu'il y a aussi des bénévoles qui participent ?
Pour l'instant, il y a 2 salariés. Moi, je travaille bénévolement depuis 2016. On a 2 salariés donc, qui travaillent pour l'instant essentiellement en contact avec des établissements scolaires, donc qui font ça à peu près toute la journée. On avait essayé de former des bénévoles pour travailler avec les établissements scolaires et on s'est aperçu que c'était pas possible parce que c'est vraiment un travail, ça demande un suivi important et puis des mises à jour constantes, etc. Enfin bref, on a abandonné l'idée des bénévoles sur ce travail-là. On a des bénévoles où on bénéficie de beaucoup de mécénat de compétences, d'entreprises. Par exemple, on a la méthodologie, on l'a entièrement reformulée avec une entreprise qui s'appelle... excusez-moi, j'ai oublié son nom. Pourtant, ils nous ont énormément aidé. Bon, ça va me revenir. On a des bénévoles qui travaillent pour améliorer certains points au sein de l'association. Mais si vous voulez, on ne travaille pas du tout avec plein de bénévoles comme font d'autres associations qui vont lire auprès de jeunes ou quoi que ce soit. On ne peut pas fonctionner comme ça.
Lorsque quelqu'un s'adresse à vous, en fait, vous leur donnez des clés ?
On les aide d'abord à bien comprendre les règles et pourquoi il faut faire ces règles, pourquoi il est important de les respecter. Ensuite, on les aide à faire de ce quart d'heure de lecture vraiment un projet pour tout l'établissement et de manière à impliquer tout le monde et que tout le monde participe vraiment bien en amont, hein, parce que quand je vous dis que ça dure entre 6 mois et 1 an avant de lancer vraiment le quart d'heure de lecture, c'est très important parce qu'il faut que tout le monde comprenne les enjeux, qui sont les enjeux liés à la lecture, comprenne pourquoi on fait ce rituel, comment on peut le mettre en place, quels sont les obstacles qu'il faut arriver à surmonter. Il y a des obstacles hein, qui sont arrêter tout un établissement pendant un quart d'heure, à un moment comme ça tous les jours, ça se fait pas très facilement. Il y a rien d'impossible, hein, mais il faut bien préparer les choses. Il faut que tout le monde puisse en discuter. Donner la liberté de lire, par exemple, à tout le monde, c'est très bien. Mais si vous avez des gens, que ce soit des adultes ou des enfants, qui sont jamais rentrés dans une bibliothèque ou dans une librairie, qui ne lisent pas particulièrement, qui savent même pas forcément déterminer leur goût de lecture, etc. Ben, si vous les avez pas préparés, ça va être un flop. Il faut que tout le monde ait toujours, en permanence, un livre avec soi. Donc, si vous contentez juste de mettre une boîte à livres à l'entrée d'une classe en disant, oui, comme ça, vous prenez un livre et puis les gamins vont lire 3-4 pages et puis au bout du quart d'heure, ils remettent le livre dans la boîte à livres, ça ne sert strictement à rien parce que c'est pas comme ça qu'on donne une habitude de lire. Il faut que le livre, c'est quelque chose qui doit nous appartenir, qu'on a avec soi. On le lit pendant un quart d'heure, là, pendant ce quart d'heure de lecture. Et puis après, soit en revenant chez soi, soit on a encore envie de lire, de continuer cette lecture et on continue. Et là, l'habitude se crée.
Olivier, vous nous donnez de nouveau les horaires et le jour de votre intervention à Manosque.
Alors, nous intervenons à Manosque le samedi 23 septembre à 14h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Je présente l'association pendant un quart d'heure. Et à 14h45, sur la place de l'Hôtel de Ville, et chez de nombreux participants, dont des commerçants et autres, chacun pourra venir avec un livre et lire pendant un quart d'heure. C'est effectivement à l'intérieur de la vieille ville de Manosque. Il y a aussi quelques commerçants à l'extérieur et ça va même jusque en dehors de Manosque. Par exemple, il y a le Bleuet à Bannon qui va participer à l'opération, ou la chocolaterie Le Blanc, etc. Enfin, d'autres personnes qui ont envie, qui sont conscients que c'est un enjeu important et qui ont envie de faire ce petit quart d'heure de lecture comme ça, qui est aussi une manière de communiquer sur les bénéfices de la lecture. Je dirais juste de dire aux gens qu'ils viennent avec un livre et qu'ils lisent et qu'ils prennent ce plaisir de lire avec nous, et parce que c'est avant tout un plaisir et un enrichissement.